nos sages organisateurs ont également trouvé, comme pour toutes les autres sessions, un titre absolument admirable que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer, les représentations des ingénieurs dans l'évolution des représentations du monde social. Voilà qui est tout à fait admirable. Et pour une fois, nous allons procéder de façon différente du mode classique, puisque nous allons commencer par le contemporain, avec un travail en cours de Marie-Pierre Escudier, qui est en train de terminer, peut-être pas tout à fait, non, qui est en cours de thèse sur l'école, l'Institut national de sciences appliquées de Lyon, premier institut de ce type créé en France dans les années 1950. Puis ensuite, Christelle Didier, qui interviendra au nom, en son nom propre et au nom de Christophe Talin, qui n'a pas pu venir, pour raison de retrait des contrôleurs de la SNCF, qui sont en grève aujourd'hui, voilà, et qui nous fera un exposé sur une enquête qu'elle a menée, enquête quantitative sur les ingénieurs et les questions d'éthique et d'environnement. Et puis nous remonterons dans le passé avec le travail d'Arina Martikanova sur les ingénieurs espagnols au XIXe siècle, le sens du travail et l'hégémonie masculine. Voilà, j'en ai assez dit, j'en ai même déjà trop dit. 20 minutes pour chacune. Je serai absolument sévère, de façon à ce que je puisse avoir 3 minutes d'exposé ensuite. Je serai moi-même très bref, je m'imposerai moi-même les propres règles. Et ensuite, de façon à ce que la salle puisse parler, puisque j'ai malheureusement constaté que nous avions relativement peu de temps pour les questions de la salle, et je vais essayer de faire un peu autrement cet après-midi. Voilà. Bon. Alors, Marie-Pierre, à toi.
Ben, je vous remercie. Donc, je vais vous présenter une communication que j'ai finalement intitulée « Figure et rôle de l'ingénieur de l'INSA de Lyon vers une éducation à la citoyenneté ». Alors, dans les années 1950, du développement des ingénieurs en France, ressurgit la question politique de leur éducation et d'un enseignement adapté, en fonction d'un besoin quantitatif d'ingénieurs, mais selon un nouveau rapport historique de l'homme et de la science à la technique. Créé en 1957 sur les terrains de la Doua, à Villeurbanne, l'INSA de Lyon est le fruit d'un projet politique porté par le directeur général de l'enseignement supérieur, Gaston Berger, le recteur Jean Capelle, qui deviendra le premier directeur de l'INSA, le président du Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès technique, Henri Longchambon, et ensuite ce projet est acté par le ministre de l'Éducation nationale, René Biller. Donc, dans ce contexte d'une politique volontariste, initiée par Pierre Mendès-France dès 1953, culminant en 1956 avec le colloque de Caen, durant lequel les acteurs du futur INSA sont réunis, sauf Capelle, qui est en Afrique et qui sera appelé au moment de la création de l'INSA. Donc, la création de cette école, en 7 mois, résulte d'une action politico-administrative rapide et qui est assumée à l'échelle locale lyonnaise. Donc, au cours de cette création, si le besoin quantitatif est déterminant dans le choix des modalités pratiques de fonctionnement de cette école, c'est-à-dire un recrutement sans concours, des profils de jeunes bacheliers, tout comme d'autodidactes, nous pensons toutefois que c'est vraiment une raison intellectuelle, philosophique, qui conduit à la création de l'INSA. L'histoire de ce dernier est à ce titre inséparable de ses pères fondateurs. Donc, ma thèse, par ailleurs, se propose d'analyser le projet de l'INSA comme le résultat d'une nécessité philosophique exprimée par le philosophe et administrateur Gaston Berger, qui, par une réforme de la pédagogie et des moyens d'enseignement, ainsi qu'une vision de la science inspirée de la phénoménologie husserlienne, Gaston Berger vise l'éducation de l'ingénieur à la citoyenneté. Dans le cadre de cette communication, je vais seulement tenter de mettre en perspective les discours employés par les protagonistes de cette école pour qualifier ce nouvel ingénieur, ingénieur au profit des autres, comme le nomme Gaston Berger, avec les soubassements philosophiques du projet. Donc en fait, je fais l'hypothèse que la figure idéale de l'ingénieur de l'INSA est déterminée philosophiquement, permettant la structuration d'un ensemble de valeurs, de normes et de rôles de l'ingénieur. Afin de saisir la constitution et l'évolution de cette figure idéale, j'ai réuni des sources à la fois descriptives et idéologiques de cette fondation. Ces textes permettent de restituer les conditions d'action et de mise en œuvre particulières d'un projet qui est beaucoup travaillé dans le texte, mais aussi d'étudier quelle est donc la philosophie qui l'encadre. J'étudierai aussi des sources donc idéologiques qui influencent la construction identitaire de l'ingénieur de l'INSA, en repérant ce qui demeure comme une référence prégnante dans le temps. Par ailleurs, donc si l'on considère l'INSA du point de vue d'une analyse institutionnelle, il semble que les idées philosophiques concourent à la structuration et à la légitimation du Centre des humanités de l'INSA, centre qui délivre la formation en sciences humaines et sociales pour l'ingénieur. Donc, afin de discuter ces hypothèses, j'ai sélectionné deux moments extrêmes qui mettent en regard les débuts de la création de l'INSA et la période contemporaine. Donc, les sources contemporaines sont issues de ce Centre des humanités. Elles sont à propos des modalités pédagogiques, des orientations politiques décidées par les acteurs, donc enseignants et directeurs du Centre des humanités. Cela conduit en fait à moins chercher à ériger des modèles de l'ingénieur qu'à saisir les volontés politiques et éducatives pour l'ingénieur qui sont en construction, voire en répétition dans le temps, et qui apparaissent dans ses discours. La sélection des sources contemporaines, qui est très limitée, s'est faite sur la base d'un choix de texte qui avait pour vocation de mener une politique du Centre des humanités et qui n'avait pas seulement un écho administratif. L'originalité de ces sources permet toutefois, comme l'explique l'historien Michel Vinocq, de partir des hommes dans leur activité réelle pour mettre en lumière la manifestation des idées dans le temps. Donc pour moi, l'enjeu de cette communication est d'analyser la dimension philosophique d'une institution pour la production d'une certaine identité chez son élève ingénieur, tout en considérant l'influence des contextes sociaux, économiques et politiques. L'origine intellectuelle, qui peut être une originalité pour cette école, du moins une spécificité méthodologique pour moi, de cette figure de l'ingénieur d'INSA fera donc l'objet de mon premier point pour être ensuite confronté aux discours récents qui témoignent de cette évolution. Alors, l'origine intellectuelle de l'ingénieur humaniste de l'INSA, elle dépend de textes dans lesquels on trouve souvent la figure promue à l'INSA qui est qualifiée d'humaniste. Bon, la tradition humaniste s'illustre à travers les siècles, il faut donc préciser quelles sont ses sources. Et à partir de là, l'articuler à la problématique de l'époque dominante sur la technique. Donc, quel est l'héritage humaniste à l'INSA? Les idées humanistes que l'on retrouve dans la construction intellectuelle de l'INSA dépendent d'un contexte propice à ces idées et de l'influence philosophique de Gaston Berger, son principal fondateur. Je vais partir de ce que j'ai appelé un dialogue de revue pour des idées républicaines, qui va me servir à poser le contexte de cette création. Donc en 1957, au début de l'INSA, paraissent deux revues de la littérature politico-administrative. Tout d'abord, le premier numéro de la Revue de l'enseignement supérieur, qui est fondée par Gaston Berger, à ce moment-là donc directeur de l'enseignement supérieur, et le numéro 5 des Cahiers de la République, dirigé par Claude Nicollet. Donc, dans la première revue, de la Revue de l'enseignement supérieur, trois articles portent sur la création de l'INSA. Un premier écrit par Jean Capel, qui est le directeur de l'INSA, qui est assez descriptif sur sa création. Un deuxième écrit par Henri Longchambon, qui est plus programmatique, qui porte sur la politique scientifique à adopter. Et enfin, celui de Gaston Berger, philosophique, qui s'intitule « Humanisme et technique ». Du côté des Cahiers de la République, à ce moment-là, on fait le bilan du colloque de Caen de 1956. Et au sein de ce numéro, Berger fait paraître un article dans lequel il appuie le constat de ce qu'il appelle la misère des sciences humaines en France. Donc, par ces deux revues, on peut rendre compte d'un contexte politique et d'un contexte d'action en faveur des écoles d'ingénieurs. Il y a les mêmes acteurs qui agissent pour la défense d'idées républicaines, qu'ils qualifient de républicaines, qui portent sur la liberté, sur une plus grande démocratisation. Et donc ces revues se présentent comme l'instrument privilégié de diffusion de ces idées. Dans la revue L'enseignement supérieur, par exemple, les idées républicaines sont adossées à des réalisations concrètes, qui sont donc en l'occurrence l'INSA, et cela confère à l'INSA une valeur exemplaire de cette action politique menée dans les années 1950. L'idée défendue globalement est que l'ingénieur organise la vie économique et la gestion technique de la nation, mais qu'il ne doit pas se substituer au pouvoir politique. Il y a donc là la nécessité d'une éducation de l'ingénieur qui passe par les valeurs humanistes. C'est ce que développe Berger dans son texte « Humanisme et technique ». Donc l'humanisme de Gaston Berger, pour le développer un petit peu, cet humanisme fait référence aux valeurs. Il consiste à rechercher les aspirations profondes de l'homme. Alors comment faire ? Au moyen d'une éducation par les idées. Concrètement, cela passe par la lecture des grands textes littéraires, scientifiques, philosophiques, qui doivent permettre de trouver la possibilité de se définir en tant qu'homme et de juger de la technique. Donc une éducation par les idées, une éducation aussi, enfin un enseignement par les SHS. Berger rapproche l'étude de la technique par les SHS du rôle des sciences, qui consiste à rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire que les sciences humaines doivent rendre intelligible le phénomène technique et déterminer les applications de la technique. À partir de là, éducation par les idées, éducation par les sciences humaines et sociales, dans le but, nous dit-il, de faire un ingénieur homme d'action, un ingénieur philosophe en action. Donc le philosophe en action, à l'image de l'homme politique, qui selon Platon doit posséder la science du bien, cet ingénieur doit, au moyen de la philosophie et des SHS que j'évoquais, posséder l'idée de la juste mesure. Berger écrit « La technique est faite pour l'homme et l'homme pour le bonheur ». Donc la condition d'un ingénieur humaniste ou ingénieur citoyen dépend d'un choix entre les valeurs qui s'imposent à la technique. De même, dans la réflexion sur la formation des ingénieurs, Henri Longchambon pense lui aussi, je le cite, que ce qu'il faut juger, c'est l'homme et ses possibilités. Et pareillement, c'est par l'éducation humaniste que le recteur Capel déclare que l'ingénieur sera un véritable facteur de civilisation. Ça va, là.
Ça va.
Oui.
Je suis d'affaire.
Donc, on va justement avancer dans le plan et voir à présent quelle est l'articulation entre l'humanisme et la question technique. Alors, l'humanisme et la technique s'articulent justement par la formation en SHS qui complète et éclaire. Sur son époque, Berger le décrit comme un monde moderne en accélération. Il pense que ce qui s'impose, c'est que l'homme connaisse le contexte dans lequel il se trouve placé. Il pense qu'il faut développer de plus en plus une connaissance du milieu. Cela s'exprime par le changement de rapport à la rationalité. Je le cite, « La rationalité de l'univers ne doit plus servir à nous détacher du sensible et à nous faire pressentir la perfection de l'être, mais à nous permettre d'agir dans le monde avec une efficacité accrue. » Cela a des conséquences sur la compréhension de la figure de l'ingénieur. Si l'on considère l'étude d'Antoine Picon sur l'invention de l'ingénieur moderne, il nous dit que l'enseignement de la rationalité technique relève, selon Picon, d'un projet de rationalisation qui permet de caractériser une école d'ingénieurs. Donc sur la rationalité, Berger pense que le propre de l'homme est de découvrir, par l'observation, les causes des phénomènes, puis de les mettre en œuvre consciemment pour obtenir le résultat qu'il désire. Donc la rationalité technique dont il parle est comprise comme un moyen de création qui possède des caractères généraux. Et pour lui, la rationalité technique sert à définir l'homme dans ce qu'il fait, mais il faut prendre en considération aussi ce qu'il est. Donc science et technique sont liées à la vie, à l'expérience quotidienne, et la rationalité de l'ingénieur est une rationalité en vue de l'action, d'où la nécessité dans sa réflexion, d'une pluridisciplinarité des connaissances pour mieux saisir la complexité du réel. Donc intelligence et imagination, qui sont le fruit de cette rationalité spécifique de l'ingénieur, sont les concepts qui expliquent en partie l'enseignement qui est développé à l'INSA. Cette rationalité spécifique s'exprime notamment par les termes choisis. INSA, Institut national des sciences appliquées. Sciences appliquées détermine ce rapport à la connaissance que nous avons exprimé, qui se pose entre le lien entre la rationalité et l'expérience. Donc la problématisation des connaissances chez l'ingénieur relève tout particulièrement à l'INSA du rôle du département des humanités. Les humanités sont là pour apporter une plus grande contextualisation des savoirs par l'étude des langues, des civilisations, des conférences de professionnels. Au début, à l'INSA, il y avait des personnalités comme Roger Planchon, directeur du théâtre de la cité ouvrière de Villeurbanne, qui venait donner une conférence. Un chirurgien lyonnais aussi est venu dans les premières années donner une conférence aux ingénieurs. Donc, une plus grande contextualisation des savoirs et une approche pluridisciplinaire que souhaite également Longchambon dans son rapport pour le troisième plan de modernisation et d'équipement. Donc, une approche disciplinaire qui met de côté l'exhaustivité des connaissances au profit d'une problématisation approfondie sur la société. Donc comment, en somme, se définit cet ingénieur humaniste de l'INSA? Il est défini par les discours philosophiques et scientifiques sur la façon de repenser la rationalité spécifique de l'ingénieur et par les discours pédagogiques sur l'enseignement des SHS qui doivent servir à élargir les idées au contexte politique et économique dans lequel l'ingénieur se trouve placé. Donc après cette réflexion sur l'influence de Gaston Berger, nous allons à présent essayer de le comparer avec l'évolution et voir s'il y a une évolution de ses conditions intellectuelles qui détermine la figure de l'ingénieur à l'INSA aujourd'hui.
Peut-être un deuxième slide.
Il faut baisser simplement. Voilà. Donc pour étudier cette évolution, je vais simplement explorer deux pistes. Il faut souligner d'une part les conditions actuelles d'un changement, d'une transition dans la détermination de la figure de l'ingénieur de l'INSA pour la période actuelle et voir quels sont les effets aussi de la structuration de cette institution qui n'a plus à asseoir sa légitimité, qui a maintenant 50 ans, quels sont les effets de cette structuration sur l'ingénieur. Donc les recompositions de cette figure idéale, en prenant les catégories d'expansion et de fragmentation, à qui nous intéresse. On peut quand même constater que donc, ce sont des catégories présentes depuis 1980, soulignées par le colloque du Creusot. Donc on peut se demander si la persistance de ces phénomènes professionnels et sociaux, si cela a eu une influence sur la philosophie éducative développée à l'INSA. Pour le faire rapidement, aujourd'hui à l'INSA, il existe une nouvelle politique mise en œuvre qui s'illustre par le Centre de diversité et de réussite. Ce centre a pour but de mettre en place des actions en faveur de l'égalité des chances et de la diversité contre un déterminisme sociologique croissant. Mais du point de vue philosophique, il se pose la question de définir l'assise conceptuelle de l'idée de diversité, ce qui pour le moment encore n'a pas été fait à l'INSA. Et je pense par rapport à la communication de ce matin, que si on ne définit pas un concept comme celui de diversité, on va pouvoir parler d'éthique, donner l'exemple de l'éthique où les ingénieurs parlent d'éthique, mais sans entrer dans le fond des idées. Là, ça en est l'exemple. Donc, comme nous avons développé l'idée d'une définition d'une école d'ingénieurs par rapport à sa relation à la technique, l'INSA se définit traditionnellement par les catégories de savoir et de savoir-faire, et l'influence d'un centre de diversité tend à développer l'idée d'un savoir-être sur le modèle de la responsabilité sociale de l'ingénieur, telle qu'elle est développée à l'ESSEC. Donc on sent se dessiner une recomposition de cette image de l'ingénieur sous l'influence progressivement des modèles développés dans les écoles d'ingénieurs. Mais je ne vais pas développer plus longuement là-dessus. De notre côté, la poursuite de la philosophie humaniste au sein du Centre des humanités dans la période récente, et on peut toujours la constater, l'idée c'est de se demander comment aujourd'hui les discours humanistes se légitiment à l'INSA. Je vais donner deux exemples. En 1999, le directeur des humanités fait paraître une nouvelle lettre sur l'humanisme, dans laquelle on constate un déplacement des valeurs. Donc, à l'idée de liberté que prônait Gaston Berger, se substitue la question morale de la responsabilité de l'ingénieur. Et donc, progressivement, la condition d'un ingénieur citoyen passe par ce travail sur la responsabilité de ses choix. En 2003, un autre directeur du Centre des Humanités rédige le contrat quadriennal dans lequel il mentionne les qualificatifs de l'ingénieur. Ils sont cette fois plus larges, plus nombreux. L'ingénieur doit être entrepreneur, citoyen, humaniste, international. L'auteur emploie une rhétorique dédoublée entre l'ingénieur idéal, qu'il vient de décrire, et les moyens concrets du Centre des Humanités pour y parvenir. Je ne développe pas sur l'extrait qu'il donne, mais en tout cas, cela montre que la pédagogie tient le rôle, à mon avis, d'une utopie éducative au sens de ce qui cherche son lieu pour se réaliser, c'est-à-dire le Centre des Humanités, et qui n'est pas qu'un projet abstrait pour l'ingénieur. Par contre, ce que l'on peut dire par rapport à ces sources, et ce sera mon dernier point, c'est que ces discours à caractère humaniste s'adressent seulement, dans le cadre de ce que j'ai cité, aux enseignants-chercheurs des humanités et qui s'adaptent à leur contexte. Et selon Jacques Lagroix, la compréhension d'une institution passe d'abord par le rapport de celui qui tient un rôle dans l'institution. Alors, en termes bergériens, on peut dire qu'une mission d'éducation est dévolue au corps professoral de l'INSA. Mais Lagroix nous dit en plus qu'il faut expliquer que pour tenir son rôle dans une institution, il faut avoir une certaine connaissance de cette institution. Et en ce qui concerne l'INSA, il demeure un lien étroit entre l'INSA et son histoire. Les 50 ans donc, ont été célébrés. Une journée de mars 2011 sur l'héritage de Gaston Berger a été organisée. De même que la présence de Maurice Béjart, fils de Gaston Berger, comme parrain de la section d'Ansétude, a longtemps entretenu ce rapport à l'histoire spécifique de l'INSA. Donc les discours humanistes, qui sont des discours pédagogiques, préparent donc la construction de l'ingénieur INSA par les acteurs de son éducation. Pour conclure, cette communication donc, se proposait d'interroger ces processus d'expansion et de fragmentation de la catégorie des ingénieurs au travers de la relation intellectuelle entre l'ingénieur, la technique et la société. Il en résulte que les représentations des ingénieurs de l'INSA dans l'évolution des représentations du monde social se déterminent idéologiquement par le recours à une philosophie humaniste et à une rationalité spécifique dans les écoles d'ingénieurs. Donc cette étude monographique que je mène sur l'INSA nous permet d'esquisser une piste d'étude des relations entre la construction du savoir et la construction du social. À l'image de ce que souhaitait Gaston Berger pour l'ingénieur, je le cite pour terminer, une préparation dynamique qui le rapproche de la réalité et l'y adapte.
Merci beaucoup. Bien, j'aurais quelques commentaires à faire sur l'environnement et le contexte dans lequel a été construit l'INSA, mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Et tout de suite, je passe la parole. Christelle Didier.
Voilà, alors on va partir un peu sur une perspective très différente, pas du tout monographique, puisque le travail que je vais vous présenter ici, qui est un travail un petit peu en cours d'élaboration, c'est des premières pistes, quoi. Il y a déjà quelques acquis de ce travail, mais aussi des pistes qui s'ouvrent. Se base sur plusieurs enquêtes quantitatives sur l'ensemble des ingénieurs diplômés, exclusivement diplômés, en France. En tout cas, ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions, et j'évoquerai un petit peu les sources tout à l'heure. Donc on est sur le rapport à l'environnement, la façon dont les ingénieurs se représentent les questions environnementales aujourd'hui en France, et avec quelques perspectives comparaison historique et de comparaison avec d'autres groupes professionnels. Alors la question de l'environnement, donc la question de l'écologie, c'est bon, depuis les années 60-70 hein, qu'on en entend parler. Les ouvrages comme Printemps silencieux de Rachel Carson marquent un jalon important aux États-Unis. On peut parler aussi du concept de développement durable, beaucoup plus utilisé aujourd'hui, donc apparu officiellement pour la première fois en 87 dans le rapport Brundtland. Et je voulais citer comme autre jalon, troisième jalon, hein, donc l'émergence de la préoccupation d'une façon générale dans les années 60-70, ce fameux rapport Brundtland. Et puis en 2002, lors de la conférence de Johannesburg de l'ONU, le sommet de la Terre, on a vu de nouveaux acteurs sollicités par rapport à la question de l'écologie, de l'environnement et du développement durable. C'est-à-dire autant l'ONU s'adressait plutôt aux gouvernants jusqu'en 2002 pour prendre en charge la question de l'environnement, autant à cette période-là, et on le voit à la fois dans ces débats en 2002, mais avec, par exemple, les grands débats autour du Global Compact quelques années auparavant, les entreprises, les multinationales, repérées comme des acteurs importants pour régler les problèmes d'environnement ou pour, en tout cas, les prendre en charge. Et c'est à ce titre, c'est les ingénieurs, comment les ingénieurs pourraient ne pas être concernés quand tout d'un coup on se met à interpeller les entreprises. Donc bon, dans cette préoccupation des ingénieurs pour l'environnement, il nous paraissait important de resituer le moment où les entreprises se sont mis à être interpellées directement et pas seulement les gouvernements. Et c'est d'ailleurs à partir de 2002 qu'on a vu émerger un nouveau concept que j'évoquerai pas davantage ici, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est une sorte de déclinaison pour les entreprises des enjeux du développement durable. Alors, chez les ingénieurs, comment tout cela se passe? Quelques éléments aussi, juste quelques jalons. J'avais eu l'occasion, dans des travaux précédents, de voir comment la question de l'environnement apparaissait dans les codes d'éthique et de déontologie chez les ingénieurs américains. Là, je vais parler que de la France. En France, peu de textes sont disponibles, en tout cas dans ce domaine. Et ce que je peux citer, c'est que le premier code de déontologie du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, qui a été promulgué en 1996, évoque très timidement la question de l'environnement, de façon même un peu cocasse, parce que c'est un texte qui avait été repris d'un texte européen. C'est une sorte de copie, copier-coller d'un texte européen. Et une des seules phrases modifiées dans le texte, c'est celle qui concerne l'environnement. Et de tête, parce que j'ai pas le document ici, dans le texte européen, c'était l'ingénieur doit être attentif aux questions environnementales. Et dans le texte français, c'est l'ingénieur doit porter une attention raisonnée à l'environnement. Quoi, c'était quasiment la même phrase, mais avec encore plus de prudence dans le texte français. Alors, les choses sont bien différentes dans le deuxième code des ingénieurs français qui date de 2002, qui s'appelle cette fois charte d'éthique. Drôle de terme, on est habitué à avoir des codes d'éthique ou des chartes éthiques, mais là, c'est une charte d'éthique du CNISF, et qui est plus qu'une révision, c'est une réécriture, puisqu'on ne trouve pas forcément grand-chose du texte précédent. Mais en revanche, ce que l'on voit, c'est que le mot environnement, développement durable est extrêmement cité dans ce texte, donc qui date de 2001. Donc, apparemment, en tout cas, pour les porte-parole officiels de la profession, qui, je pense, vous connaissez assez bien le milieu des ingénieurs pour savoir que le CNISF représente de façon très étonnante la profession, puisque la plupart des ingénieurs français ignorent l'existence du CNISF. Mais on va dire qu'officiellement, le CNISF, qui parle pour la profession, met en avant cette problématique de l'environnement, en tout cas, voilà, comme ça, dans son code de 2001. Alors, avec Christophe Talin, on s'est dit, mais comment cette préoccupation qui émerge, qui se développe dans le temps, comment impacte-t-elle sur les représentations que se font les ingénieurs de ces questions-là? Alors, les matériaux qu'on a pu travailler sont de plusieurs natures. Il y a d'abord les enquêtes valeurs qui sont dirigées par Pierre Bréchon, les enquêtes valeurs sur les Français qui datent de trentaine, quarantaine d'années maintenant, et on s'est intéressé principalement à celle de 2008, qui a, dans cette enquête de 2008, il y a eu pour la première fois un ensemble d'indicateurs autour des représentations de l'environnement, indicateurs qui a été développé à la fin des années 70 aux États-Unis, mais bon, qui n'était pas utilisé dans les enquêtes valeurs, ni les enquêtes valeurs européennes, ni les enquêtes des valeurs françaises, jusqu'en 2008. Et en 2008, donc, ces indicateurs, nouvel indicateur a été utilisé. Et on a utilisé également, donc, pour ce qui concerne les ingénieurs, deux enquêtes. une que j'avais réalisée lors de ma thèse en 99 sous la direction de Maître Grelon, et qui ne concernait à l'époque que les ingénieurs issus des écoles du Nord-Pas-de-Calais. Donc j'avais eu 3901 répondants exactement, alors je ne sais pas pourquoi ils deviennent 3400. Et cette enquête donc, que j'ai faite en 99, j'ai pu la refaire grâce à la gentillesse du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, qui m'a permis de réutiliser une partie de mon enquête dans l'enquête qu'ils font tous les deux ans sur les rémunérations. Donc dans l'enquête qui a été réalisée en 2011, cette fois on a 27 000 répondants, donc il y a un beau matériau pour aller un petit peu plus loin que dans la thèse. Mais on a pu à un moment extraire les ingénieurs issus uniquement des écoles que j'avais étudiées en 99 pour faire un travail un peu longitudinal sur les représentations qu'ont les ingénieurs des questions environnementales, donc avec une perspective longitudinale. Donc voilà un petit peu le matériau qui a été utilisé. Alors ces fameux items, ces fameuses phrases qui composent l'indicateur des attitudes environnementales d'un LAP, donc qui date de 78. Alors c'est uniquement les six dernières. Le premier item qui est utilisé dans les enquêtes valeurs des Français et des Européens, également utilisé dans notre enquête. En fait, c'est une question qui était posée depuis 30 ans dans les enquêtes valeurs, donc ils ont continué de la poser et ils ont rajouté les items qui ici s'appellent items 2 à 7, qui font la partie de l'indice environnemental de DINLAP. Donc, qu'est-ce qu'on trouve principalement ? Donc, quelques chiffres seulement. Si on compare, alors j'ai des chiffres de 2011 et des chiffres de 2008, les enquêtes valeurs ont lieu à peu près tous les 10 ans. À peu près tous les 10 ans. Là, c'était en 2008 et l'enquête, nous avons pu la réaliser donc en 2011. Donc, il y a un petit décalage. Mais on a donc les chiffres pour ces items, à la fois pour l'ensemble de la population française. Donc, dans une enquête par sondage de Français de plus de 18 ans, donc il y avait 2-3 000 répondants. Donc, on a pu extraire ce que les cadres disaient, donc dans cette enquête par sondage, les deux premières colonnes. Et ensuite, il y a les résultats qu'on a avec notre enquête auprès des 27 000 répondants de l'enquête 2011. Alors, ce qui apparaît fortement, c'est que les cadres apparaissent plus proches sur de nombreux items des Français en général. Et on aurait pu penser que les ingénieurs faisant partie des cadres, on trouverait plus de proximité. Mais c'est pas si vrai. Ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est sur la question des revenus. Donc on voit que les cadres se distinguent des Français dans l'idée de donner une partie de leurs revenus si c'était pour éviter la pollution de l'environnement. On pourrait penser que c'est lié à un pouvoir d'achat supérieur, une connaissance des enjeux. Pourquoi pas donc, pourquoi n'est-ce pas le cas des ingénieurs ? Alors, une des hypothèses qu'on peut émettre se trouve dans les réponses données aux autres questions, c'est que si pour les ingénieurs, l'environnement n'est pas un problème, pourquoi donc donner une partie de ces revenus ? Et c'est ce qui apparaît dans les autres questions, où on voit que pour les ingénieurs, l'équilibre de la nature est bien assez solide pour compenser les dégâts des pays industrialisés. En revanche, le problème, probablement, c'est la surpopulation, donc où il y a vraiment un chiffre très différent par rapport aux autres groupes interrogés, et cette croyance, mais heureusement de la part des ingénieurs, qu'il y a cette croyance que le génie de l'homme permettra à la Terre de rester viable. C'est quand même là qu'il se situe. Donc, bon, je me dis qu'il change de métier s'il ne croit pas en ça. Donc, c'est plutôt assez logique qu'on ait ce genre de réponse. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est pas seulement donc ces différences comme ça, mais aussi en termes de proximité de réponse. C'est que pour les Français et les cadres, on voit très clairement une association des items, je reviendrai tout à l'heure sur le contenu, des items, disons, 2, 3, 7, et d'autre part 4, 5, 6. Et pour les Français, les regroupements ne sont pas les mêmes, mais je reviendrai dessus. En tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a une spécificité dans ces attitudes vis-à-vis de l'environnement de la catégorie des ingénieurs diplômés. Alors, quelques chiffres sur la dynamique temporelle. Donc on avait peu de questions parce que quand j'ai fait ma thèse en 99, j'avais la question de l'environnement, je l'avais prise en compte, mais pas autant finalement que maintenant, ou pas autant que je ne l'aurais dû. Mais en tout cas, il y a deux questions qu'on a ressorties, quoi, deux, trois questions, et qui nous a assez interpellés sur l'idée que les ingénieurs se font du progrès technique. Et en 99, Il y avait vraiment un nombre très important d'ingénieurs qui considéraient que la technique apportait plus de bien que de mal. Là aussi, hein, je trouve que c'est plutôt cohérent. On trouve un nombre également très important en 2011. En revanche, la croyance, la conviction que le progrès technique apporte plus de mal que de bien, qui était extrêmement marginale en 1999, puisqu'il n'y avait que 2% des répondants qui disaient cela. En 2011, les ingénieurs donc, issus des mêmes écoles du Nord-Pas-de-Calais, donc on est sur des groupes comparables, sont 12%, ce qui est quand même un chiffre assez important, à considérer que les techniques apportent plus de mal que de bien. Alors on voit aussi sur une question qui concerne la responsabilité des scientifiques par rapport à l'utilisation qui a été faite de la bombe atomique, on voit aussi une différence assez nette entre les réponses obtenues en 1999 et en 2011. Ah, là, il y a un petit... Non. Alors, ce que l'on a regardé aussi, c'est qu'il y avait deux phrases dont les réponses étaient très corrélées. C'était donc les scientifiques qui ont découvert le principe de la bombe atomique ont une grande responsabilité dans l'utilisation qui en a été faite, d'une part, et un ingénieur ne doit jamais participer à la mise au point de techniques sans se préoccuper de leur destination. Donc, on avait d'un côté la responsabilité plutôt des scientifiques, des savants, et d'un autre côté, plutôt la responsabilité des ingénieurs. Et donc, les réponses à ces deux questions sont, aussi bien en 1999 qu'en 2011, fortement corrélées. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'en 2011, cette corrélation est encore plus forte. Donc, il y a une sorte de cohérence plus forte autour de cette question de la responsabilité des savants, la responsabilité des ingénieurs. Alors on voit aussi sur la question des OGM et du nucléaire, il y avait une petite série de questions. Alors les réponses proposées, c'était pas très simple à composer cette question et on a eu beaucoup de négociations avec le CNISF autour des formules, les formulations proposées qui leur paraissaient extrêmement réductrices et trop caricaturales. Bon, moi je continue de penser que c'est tout de même parlant et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux après, mais bon, j'ai trouvé important que ce questionnaire soit rédigé et présenté à des ingénieurs et discuté avec des ingénieurs. Ça a permis d'ailleurs de corriger un certain nombre de questions, mais je me souviens que pour celle-là, il y a eu beaucoup de débats. Donc la question face à ces thématiques qui font controverse dans la société autour de la gestion des déchets nucléaires et autour des OGM, c'était bon, est-ce qu'on est en face d'un problème pour lequel c'est une réponse technique qui est attendue et uniquement une réponse technique, ou est-ce que c'est un problème face auquel il faut un peu de gingin technique, mais il y aura nécessité d'un débat public pour arriver à résoudre les difficultés auxquelles on fait face. Et puis, bon, autre type de réponse, c'est non, là, il n'y a pas de problème, mais bon, il faut peut-être en parler aux gens, il y a besoin de communication parce que les gens sont inquiets, à tort souvent, ou... Voilà, c'est pas un problème et les gens n'ont pas plus besoin que cela d'être informés. Alors, ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir l'évolution des chiffres en 10 ans sur ces deux problématiques. Et en gros, ce qui apparaît, c'est que sur la question du nucléaire, il y a un glissement. Il y a un glissement fort, c'est-à-dire que des ingénieurs qui disent c'est qu'un problème technique. Ben, ça devient nettement moins important. Il y a plus d'un quart de la population qui disait cela. Mais on voit apparaître par ailleurs des gens pour dire c'est pas un problème et les gens sont assez informés. Donc il y a un petit peu des glissements qui se font et on voit que le glissement n'est pas tout à fait le même pour les OGM où au contraire on voyait un besoin de débat important. 64 plus 20% qui disaient que ce soit un problème ou pas un problème. Il y a besoin de débat et le chiffre est moindre. Alors l'hypothèse qu'on émet, c'est qu'il y a une sorte de cycle dans les controverses et que pour le problème du nucléaire, pour un certain nombre d'ingénieurs, c'est un problème qui est dépassé, qui est résolu. Alors il y a peut-être besoin d'en discuter, en effet, mais le problème est dépassé. Pour les OGM, quand on en parlait il y a 10 ans, pour beaucoup d'ingénieurs, c'était quelque chose qui était peu connu et finalement leur attitude était assez proche de celle d'un Français en général et pas forcément plus d'un ingénieur. Donc ça, ce sont des choses à retravailler. Donc ça, c'était quelques éléments, bon, on en a plus hein, dans le travail complet, mais quelques éléments temporels. Et le gros travail sur lequel on va s'atteler, c'est d'essayer de voir s'il y a, sur 2011 uniquement, où on a un grand nombre de répondants et moyens de faire des sous-groupes, de repérer une typologie, de repérer un petit peu des dynamiques internes au groupe. Alors, il faut prendre en compte un certain nombre de choses quand on parle d'évolution, quand même, là, pour revenir à l'évolution 99-2001, c'est que c'est la même population et c'est pas la même population. C'est pas le même nombre, c'est pas la même composition en termes de place des femmes, c'est pas le même recrutement, c'est-à-dire que le pourcentage des ingénieurs diplômés 2011 qui sont passés par les classes préparatoires, par exemple, est moins important qu'il ne l'était il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Donc, pour les générations les plus âgées de la première enquête, on a principalement des gens qui faisaient partie donc d'un groupe socio-professionnel moins important et plus homogène en termes de genre déjà, quasiment que des hommes, et puis issus pour une grande majorité des classes préparatoires. Donc c'est un point important à avoir en tête quand on veut étudier l'évolution dans le temps. Alors pour revenir aux chiffres qu'on a retravaillés, à ce qu'on a retravaillé sur 2011, les rapprochements autour des items étaient difficiles à comprendre. C'était pas très naturel. Je me souviens qu'au début, on a trouvé ça. Je dis, mais j'ai beaucoup de mal à trouver une phrase qui me permette de rendre compte de ces rapprochements. Alors, pour redire, les items 2, 3 et 4 qui sont très proches, donc, pour les ingénieurs, c'est il y a trop de gens sur la Terre. 2, le génie de l'homme permettra à la Terre de rester habitable. Et 3, si on dérange trop la nature, il se passe des catastrophes. Alors, je trouvais que c'était difficile de voir une cohérence. Et puis, de même, l'autre regroupement était difficile. Il y avait d'un côté le destin de l'homme, c'est de dominer la nature. Mais il y a aussi l'équilibre de la nature est assez solide pour compenser les dégâts. Et d'un autre côté, si on continue comme ça, on va à la catastrophe. Alors que pour les cadres, uniquement les cadres pour les Français, on voyait ensemble des items plus inquiets catastrophistes et de l'autre côté des items plus optimistes. Donc on se dit qu'il y a vraiment un travail intéressant à voir et de repérer ce qu'il y a derrière ces drôles de combinaisons d'items. Alors ce qui nous a frappé aussi, c'est que le genre intervient peu dans les réponses. Il y a un petit peu moins de pessimisme sur le traitement des déchets nucléaires du côté des femmes et un peu plus, donc une attitude un peu plus dubitative par rapport aux conséquences du progrès technique. Peut-être l'expression davantage d'une responsabilité autour de la destination de ce à quoi on contribue. Mais ce qui a gardé en mémoire, c'est plutôt que ce sont des différences faibles. L'âge serait légèrement plus discriminant, mais c'est aussi pas très très fort, en tout cas moins fort que ce qu'on aurait pu imaginer, vu aussi l'évolution de la composition du groupe. Donc un peu plus d'inquiétude chez les jeunes par rapport au traitement des déchets nucléaires, un peu moins inquiet pardon, par rapport au traitement du déchet nucléaire, qui pour eux est probablement une question dépassée dont on ne parle plus. Ils sont plus sensibles à la question des OGM. Sur la question aussi de la responsabilité des scientifiques, un peu plus d'inquiétude. Donc on voit des différences, mais qui ne sont pas énormes. En revanche, ce que l'on a remarqué, c'est qu'il y avait des différences beaucoup plus significatives quand on croisait donc les réponses, ces attitudes environnementales, par rapport à d'autres types de facteurs que les facteurs, les déterminants sociodémographiques, mais plutôt les attitudes morales, le sentiment religieux, un certain nombre de réponses à des questions sur l'égalité, la liberté, des attitudes par rapport à des questions sociétales. Alors on s'est rendu compte, entre autres, que c'était pas forcément le positionnement sur l'échiquier politique non plus qui jouait, mais on voit se distinguer des groupes de gens qui sont engagés, qui sont intéressés par la religion, par la politique, et qui vont avoir un positionnement par rapport à l'environnement qui va être distinct. Donc là, on est vraiment sur des pistes à élaborer. On est plutôt sur la découverte de ces chiffres et des étonnements, des choses qui ne vont pas de soi. Donc des bonnes pistes de travail en perspective. Et je pense que mon temps de parole étant écoulé, je m'arrêterai là.
Merci Christelle. Eh bien maintenant, nous remontons dans le temps avec l'exposé de Darina.
Merci beaucoup. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les ingénieurs en Espagne formaient un groupe socio-professionnel en voie de consolidation dont le statut social et le prestige augmentaient. La connaissance spécialisée a pris une forme institutionnelle. Les corps d'ingénieurs et leur école, l'administration des travaux publics, etc. En dehors de l'État, les ingénieurs industriels ont lutté pour élargir l'espace de leur activité et affirmer leur légitimité professionnelle dans l'industrie. Les identités corporatives et professionnelles ont été forgées autour des écoles et des corps, et les discours professionnels qui accompagnaient et sous-tendaient ces processus s'élaboraient de manière parallèle et concomitante. Je me propose d'examiner l'ambiguïté du concept du travail dans le discours socio-professionnel des ingénieurs espagnols et aussi l'impact de ces concepts sur le façonnage et la perpétuation de l'image de l'ingénieur dans la littérature. Je veux montrer que pour interpréter cette ambiguïté, il importe de comprendre que le concept de travail est un facteur à la fois structurant et dérangeant des dynamiques de la redéfinition du pouvoir légitime pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Arrivé à ce point, nous pouvons poser la question de comment la représentation et l'autoreprésentation des ingénieurs s'est-elle inscrite dans la masculinité hégémonique de l'époque. Le concept de travail occupait une position centrale dans le discours socio-professionnel des ingénieurs. Ils ont défini leur activité comme le travail d'ingénieur. Ils ont souvent perçu leur travail comme un sacrifice héroïque, insistant sur ces aspects difficiles. Cette évaluation concrète s'associait avec une vision générale assez positive. L'application au travail a été considérée essentielle, je cite, pour la force, pour le respect et pour, même pour l'indépendance que les nations obtiennent aujourd'hui. Dans le cas spécifique des ingénieurs, leur travail et les produits de ce travail ont constitué les piliers principaux de leur utilité sociale. L'utilité sociale était la base même sur laquelle s'est construite l'identité d'ingénieur moderne en Espagne du 19e siècle. Elle justifiait la revendication d'une position dirigeante dans la civilisation universelle ainsi que dans la communauté nationale. Notons toutefois que la notion de travail avait dans leur discours des signifiés multiples. Les ingénieurs ont opté résolument à exalter l'assiduité et l'intelligence, cette dernière comprise à la fois comme ingéniosité et comme activité. D'autre part, s'émanciper du travail, dans le sens de s'en libérer, fut qualifié comme la tâche la plus noble de l'homme sur la terre. Les ingénieurs ont soutenu qu'avec l'introduction de la machine à vapeur ou du chemin de fer, c'est-à-dire grâce à leur travail, la condition de l'homme s'est améliorée physiquement et moralement, et ce qui impliquait la perception du travail physique comme abrutissante. En opposant le travail intellectuel qui élève moralement avec le travail physique qui abrutisse, les ingénieurs ont perpétué et actualisé une dichotomie des racines millénaires. Mais pour s'émanciper du travail, il fallait travailler, utilisant le cerveau, mais aussi utilisant les mains. Pour résoudre ce paradoxe, les ingénieurs ont été obligés à engager une négociation compliquée de leur pratique professionnelle. Si les ingénieurs aspiraient à atteindre et à maintenir un profil d'élite en tant que groupe et aussi en tant qu'individu, il fallait éviter d'être directement associé avec le travail physique, jugé comme dégradant socialement et même moralement par les cercles sociaux que les ingénieurs voulaient intégrer en Espagne. Même le travail intellectuel rémunéré, surtout l'emploi salarié dans le secteur privé, pouvait être perçu comme un besoin malheureux qui crée la dépendance, indigne d'un homme d'honneur avec des aspirations sociales. En outre qu'abaisser le statut social, les dépendances étaient alors jugées incompatibles avec la citoyenneté à part entière, attribuée aux hommes indépendants légalement et économiquement. Les services publics représentaient un cas spécifique. Dépendre de l'État n'impliquait pas la même chose que dépendre d'un individu particulier. Et en plus, les fonctionnaires ont hérité et redéfini le prestige attaché aux serviteurs du souverain. Et dans le cas spécifique des corps techniques d'État, aux officiers de l'armée. Le dernier tiers du 19e siècle, c'est la période de la cristallisation de l'image publique d'ingénieurs en Espagne. L'étude d'André Grelon et d'Irina Guzevich sur les figures des ingénieurs dans la littérature française et russe montre les possibilités de l'analyse de la littérature pour évaluer la reconnaissance sociale et la consolidation d'une image publique de l'ingénieur. Grelon et Guzevich signalent que pendant le 19e siècle, les personnages des ingénieurs ont souvent un caractère hautement symbolique, surtout dans la littérature russe. Ils ont souligné l'invisibilité du travail professionnel au quotidien dans les deux cas. Ces deux traits sont aussi repérables dans le cas espagnol. Examiner la manière dont les personnages sont liés à l'ingénierie et au travail nous permet de mieux comprendre la complexité de la trame discursive dans laquelle les ingénieurs manœuvraient pour s'intégrer dans les élites de l'époque et pour conserver leur situation. En général, dans la littérature espagnole de la fin du 19e siècle, concilier le travail d'ingénieur avec le statut d'élite s'avère problématique. Les hommes sont liés à l'ingénierie surtout par leur étude qui confère et certifie la légitimité à leur maîtrise de la science, pas par construire des routes, concevoir et opérer des machines ou exploiter une mine. Les ouvrages exaltent les savants formés dans les écoles d'ingénieurs en tant que homme de l'avenir qui décrivait le destin tragique de ces martyrs du progrès condamnés à l'incompréhension par une société prisonnière de préjugés. Mais il relève aussi des difficultés sérieuses pour montrer le travail de l'ingénieur. Dans leur trame, être ingénieur n'a pas été un travail, on peut dire, mais surtout un signe de la personnalité libre penseuse. Due à la matrice de la science. La source du statut social de ces hommes était leur fortune familiale et les postes dans l'administration. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que par l'intermédiaire des allusions aux possibilités de commercialisation des inventions, les portes fortes ouvertes à un homme nouvel, l'inventeur entrepreneur dans la littérature. Dans l'Espagne de la deuxième moitié du 19e siècle, tous les ingénieurs reconnus comme tels étaient de sexe masculin. La femme fut l'un de ces autres implicites dont l'altérité ne semblait si évidente qu'il n'était pas nécessaire de la mentionner. À mon avis, la masculinité était l'un des aspects centraux dans la représentation des ingénieurs aux différents niveaux, comme individu homme. 2. Comme citoyen. 3. Comme expert et professionnel. Et, mais seulement à partir du début du XXe siècle, même spécifiquement comme ingénieur. Basé sur la notion de l'hégémonité de Gramsci, la catégorie de la masculinité hégémonique, que je vais beaucoup utiliser, fut créée par Robert Connell. Elle est définie comme un idéal culturel promu par l'intermédiaire de la production de masculinité exemplaire qui motive les personnes à honorer, désirer et soutenir le modèle hégémonique et à adopter une position de complicité à l'égard de lui. Pour examiner la pertinence de cette catégorie pour notre analyse, il faut d'abord poser la question « Dans quel sens exactement la femme constituait un autre pour les ingénieurs ?» Est-ce que c'était dû à la définition de l'activité des ingénieurs comme travail ? Pendant le 19e siècle, il n'existait pas d'interdiction du travail des femmes. Les femmes ont travaillé comme employées des maisons, domestiques et dans les usines. Les veuves se sont souvent consacrées au commerce ou ont tenu un atelier en Espagne, dans d'autres pays. À partir des dernières décennies du 19e siècle, on trouve même des femmes fonctionnaires en Espagne, les maîtresses d'école et les télégraphistes. Cependant, les professions prestigieuses qui exigeaient une formation supérieure et qui, en plus de l'armée, était la voie vers la respectabilité pour les hommes sans grands moyens. Se sont établis comme un espace masculin, inaccessible pour les femmes. De ce point de vue, la profession d'ingénieur ne différait pas beaucoup des autres professions d'aspiration élitiste. Les professions modernes étaient fondées sur deux activités signifiées comme masculines, agir rationnellement et exercer l'autorité. Pour les femmes, l'exercice de ces activités était étroitement surveillé et neutralisé. Maîtriser l'espace public dans le 19e siècle était un privilège des hommes. Si une femme accédait à cet espace pour le maîtriser, elle ne pouvait pas le faire sans perdre son statut, sans se soumettre au déshonneur. L'écriture et la peinture étaient les seules activités créatives de prestige reconnues qui n'entraînaient pas la perte de la respectabilité et qui étaient accessibles aux femmes. Elle se déroulait dans le milieu domestique et les femmes demeuraient invisibles derrière ce livre ou tableau. La domesticité n'était pas le seul élément qui rendait légitime la contribution féminine à certaines formes de la création. On doit mentionner aussi la nature émotionnelle de cette création. La dichotomie établie entre la raison et les sentiments a marqué en profondeur le long 19e siècle. Le genre, ou gender, a joué un rôle très important dans la construction et la naturalisation de cette dichotomie. En même temps, cette dichotomie s'est répercutée sur la définition, sur la redéfinition du masculin et du féminin et sur la division des espaces symboliques selon les frontières du gender, ou genre. Les ingénieurs, de même que les juristes, les médecins et d'autres professionnels de l'époque, ont essayé de définir leur œuvre et leur pratique en termes rationnels peu ambigus. Pendant le 18e et le 19e siècle, certaines professions ont réussi à consolider une représentation sociale dont les notions de l'action rationnelle et de l'utilité sociale ont servi à garantir la respectabilité et même à revendiquer leur leadership social. Les femmes ont été exclues de ces professions par l'intermédiaire des procédures institutionnelles et aussi par les discours postulant le manque de rationalité comme un trait essentiel de la féminité. Dans une dynamique de pouvoir et de contrôle social, le travail rémunéré accessible aux femmes continuait à être considéré comme incompatible avec la féminité respectable et par conséquent dégradant pour les femmes dans certains statuts. Au moment où le travail était en train de devenir un aspect désirable du profil d'un homme d'élite, empêcher aux femmes l'accès des professions qui sont devenues une source de respectabilité pour les hommes, faisait du travail un élément central de la masculinité hégémonique, à mon avis. En dehors des traits communs de l'ensemble des professions libérales, il existe, me semble-t-il, des facteurs spécifiques qui ont contribué à limiter l'accès des femmes à la profession d'ingénieur jusqu'au le 20e siècle. Au 19e, je crois que c'est la même chose pour les autres professions libérales. Mais au 20e, ça commence à être différencié un peu. Les premières professions de haut statut investies massivement par les femmes étaient celles qui pouvaient s'associer facilement avec des tâches considérées comme féminines, donc plutôt reproductives que productives. La médecine, comme les soins et la récupération de la santé, les métiers d'avocat comme la défense des faibles et surtout l'enseignement où la présence des femmes était acceptable grâce à la notion de la femme comme celle qui transmet les valeurs de la civilisation aux enfants, représentant de la nature sauvage. L'ingénierie fut signifiée comme domination de la nature, comme production, comme création rationnelle qui aspirait à subordonner les critères esthétiques aux critères techniques et utilitaires. À partir des dernières années du 19e siècle, mais surtout pendant le 20e, on voit se constituer en Espagne un discours politico-social de la régénération qui confère une position particulière à la raison ou à l'intelligence spécifiquement technique. ce qui n'existe pas pendant le 19e. Dans une recherche future, je voudrais examiner si ces facteurs interféraient avec la construction de la masculinité hégémonique. Je ne sais pas encore. Je m'interrogerai s'il y a eu des barrières matérielles et symboliques d'accès à la profession d'ingénieur contribuant à diriger les femmes vers d'autres espaces dont les frontières étaient plus faciles à franchir, plus inclines à une nouvelle interprétation favorable. Et pour conclure, opérant dans un milieu où le travail a représenté une pratique de potentiel compromettant, les ingénieurs ont développé des stratégies pour rendre leur travail acceptable et de plus les transformer en une source de prestige et de statut. La première de ces stratégies, qu'on peut appeler conformiste, consistait à se abriter derrière les références généralement reconnues et acceptées à cette époque, surtout l'origine familiale. Malgré la revendication du mérite individuel par les ingénieurs, en Espagne, l'idéal n'était pas un self-made man, un homme sorti de rien qui réussit en surmontant des obstacles et en travaillant dur. Depuis les Lumières, la balance changeait à faveur de la capacité d'obtenir résultats satisfaisants, c'est vrai, mais l'imitation des valeurs aristocratiques comme le statut acquis par la naissance et l'importance des liens de parenté étaient habituelles dans les milieux de la bourgeoisie libérale en Espagne. Une autre ressource assez populaire chez les ingénieurs, membres des corps d'État, consistait en s'assimiler aux officiers de l'armée pour participer en leur prestige et leur statut élevé. L'esprit de corps, l'emphase sur l'honneur, la discipline presque militaire et l'usage de l'uniforme, même des ingénieurs pas militaires, des fonctionnaires de l'État, toutes ces pratiques me mènent à conclure avec Maria Malatesta que les ingénieurs n'ont pas hésité, je cite, à utiliser l'imaginaire du passé pour se construire un nouveau rôle dans le cadre de la société. Loin de se limiter à reproduire les traits et les modèles de l'ancien régime, les ingénieurs ont contribué à les nuancer et à élargir les limites de la respectabilité. Les discours de la science leur offraient une possibilité d'y réussir. De cette façon, ils ont pu réclamer leur position parmi une nouvelle, je cite, « aristocratie de notre siècle, aristocratie qui doit chercher ses blasons dans l'étude et dans la science, ses exploits dans le travail, et en même temps accepter des titres de la noblesse traditionnelle qui les intégrait à l'élite à l'ancienne. La science était la base de leur capacité, et la capacité ou capacidad a représenté non seulement un concept fondamental pour la représentation des ingénieurs et des autres professionnels de l'époque, mais aussi une catégorie sociale légale, institutionnalisée, celle qui, dans l'Espagne du 19e siècle, conférait des droits politiques, le droit de voter. En plus, présenter leur travail comme une application utile de la science permettait aux ingénieurs de se poser comme acteurs désintéressés qui agissaient pour le bien commun. Ils ont refusé la vision de l'ingénieur comme technicien, intermédiaire entre l'homme de science et l'ouvrière. De même, ils ont évité l'association de leur travail avec l'effort physique. De toute façon, le travail quotidien des ingénieurs, leur conduite publique, et la revendication de leur rôle, même utilisant toutes les ressources de l'imaginaire social, ou précisément grâce à la mobilisation efficace de ceux-ci, ont contribué à élargir les limites de la respectabilité, agrandissant l'espace pour le travail comme une valeur en soi-même. Il y a eu néanmoins des cas de confrontation frontale aussi, avec la vision de travail répandue au sein des classes dominantes. Les ingénieurs industriels qui manquaient le soutien d'un corps de l'État ont été le groupe qui a exposé des expressions plus radicales d'un idéal alternatif. Cet idéal a placé le travail à la base même de la citoyenneté. Les ingénieurs industriels ont associé, pas la propriété, c'était le travail selon cet ingénieur. Les ingénieurs industriels ont associé les besoins physiques et moraux du travail en affirmant que le citoyen qui ne travaille pas n'est pas complètement honnête. Ces voix étaient les sirènes de l'avenir. Pendant le XXe siècle, l'identité professionnelle deviendrait l'une des identités cruciales de l'homme, plus tard et seulement d'une manière partielle aussi celle de la femme. Même ceux qui n'ont pas besoin matériel de travailler seront obligés de définir leur métier et mener une activité productive ou, du moins, faire semblant de travailler. Est-ce que on peut identifier la représentation des ingénieurs comme un modèle alternatif de la masculinité hégémonique? Je crois qu'il faut nuancer. En négociant leur auto-représentation et représentation publique, les ingénieurs l'ont intégré dans la masculinité hégémonique du 19e siècle, caractérisée par l'honneur, la raison et l'indépendance. Cependant, l'existence même des ingénieurs et d'autres professionnels d'élite, leurs pratiques discursives et leurs actions ont contribué à étendre, à flexibiliser les frontières, redéfinir les frontières de la masculinité hégémonique et renforcer la position des notions comme la connaissance utile ou le travail rémunéré. Cette nouvelle version a favorisé non seulement les ingénieurs, mais tous les professionnels. Les experts dont la connaissance spécialisée constituait la source principale des revenus. Néanmoins, ce n'est qu'à fin du 19e siècle, ou surtout au début du 20e, que surgit une différenciation discursive plus spécifique liée aux ingénieurs. La revendication d'une rationalité spécifiquement technique dans le discours public, comme clef pour sauver et moderniser l'Espagne, est en même temps comprise comme plus virile vis-à-vis des autres manières de percevoir et transformer la réalité. Merci beaucoup.
Merci Darida pour cet exposé très solide et qui ouvre toute une série de perspectives qui, je pense, ne manqueront pas d'intéresser la salle et de soulever toute une série de questions. Je voudrais revenir sur les trois exposés pour donner quelques éclairages complémentaires. Sur le premier, celui de Marie-Pierre Escudier. La création de l'INSA se situe dans une période où la France a pris conscience d'un manque cruel d'ingénieurs. Les travaux de Michel Vermocochi au plan ont montré que la France produit en 1950 moins d'ingénieurs qu'en 1929. Il y a donc là un souci tout à fait considérable dont on ne s'est pas rendu compte immédiatement parce que les prisonniers sont revenus des camps et ils ont peuplé les usines. Le démarrage économique s'est fait lentement, mais à partir de 1950-51, le pays redémarre et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on commence à manquer d'ingénieurs. Or, le système français avec les classes préparatoires est un système extrêmement malthusien et il ne permet pas de former des ingénieurs en grand nombre. D'où l'idée de constituer de nouvelles formations d'ingénieurs différentes qui donneraient des ingénieurs non pas en 5 ans mais en 4 ans seulement, mais en grand nombre. Il est prévu 4 instituts nationaux de sciences appliquées. Un à Lyon, un second qui devra ouvrir à Toulouse, un troisième en Bretagne et ce sera à Rennes, et un quatrième qui devrait ouvrir ensuite dans le Nord à Lille. Volontairement, on ne les a pas placés dans Paris. C'est dans ce cadre-là que Gaston Berger va jouer un rôle tout à fait important. Personnage tout à fait curieux que Gaston Berger, qui est un industriel doublé d'un philosophe et qui va s'ouvrir à l'action publique et devenir le directeur des enseignements supérieurs. Il mourra malheureusement assez tôt et son travail ne sera pas exactement repris, mais il développe en effet toute une conception humaniste qu'a parfaitement exposée Marie-Pierre. Ces INSA ne se sont pas créés facilement, ils se sont créés dans la douleur et notamment les associations d'anciens élèves d'ingénieurs étaient extrêmement remontées, vent debout, contre la création des INSA. Ils considéraient qu'on avait suffisamment d'ingénieurs et que les INSA seraient très bien pour former les techniciens dont on manquait, et ils étaient tout à fait convaincus que ce n'était pas la peine de donner de nouveaux diplômes d'ingénieurs. Du reste, si l'INSA de Lyon a produit des ingénieurs par centaines, le deuxième INSA, créé quelques années après à Toulouse, a produit beaucoup moins d'INSA, celui de, en gros de à 300 par an, celui de Rennes, on est tombé à 120, quant à celui de Lille, eh bien, il n'a jamais ouvert. Donc, de ce point de vue-là, les associations d'anciens élèves et le monde traditionnel des ingénieurs avaient quelque sorte gagné. L'organisation de l'INSA en interne sur ce plan des humanismes est intéressante aussi, et ça je pense Marie-Pierre n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça s'est manifesté par la création de structures particulières intégrées dans la formation des ingénieurs avec ce qu'on a appelé les sections spéciales qui associaient un engagement artistique et en même temps des études d'ingénieurs. Et ça faisait partie, ça fait toujours partie de la formation d'ingénieurs INSA. C'est un cas absolument unique en France. Il y a une section théâtre-études, une section danse-études, une section musique-études, et c'est tout, je crois.
Oui.
Voilà. Bon, il y a, donc, et c'est très intéressant. Voilà, arts plastiques et études. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la seule école d'ingénieurs en France et vraisemblablement dans le monde, dans lequel la formation artistique fait partie intégrante de la formation des ingénieurs. Voilà, c'était un élément complémentaire pour comprendre dans quoi se situe aussi l'humanisme de Gaston Berger, qui a eu ce type de développement tout à fait particulier. Le travail de Christelle Didier, qui est un travail tout à fait remarquable, s'appuie sur, d'une part, les enquêtes qu'elle a menées, et elle a mené des enquêtes quantitatives, ce qui représentait un effort considérable lorsqu'elle a préparé sa thèse. Et elle s'est appuyée aussi sur les enquêtes du CNISF. Le CNISF, c'est le dernier avatar de l'Organisation corporative des ingénieurs. L'ancêtre était la FASFI dont nous a parlé Nathalie Hugo ce matin, 1929, et puis il s'est créé d'autres structures comme par exemple les ingénieurs et scientifiques de France, qui ne regroupaient pas que des ingénieurs dans les années 50, et puis tout ceci s'est réduit comme peau de chagrin, et de regroupement en regroupement, eh bien on a abouti à une seule entité corporative qui est le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, qui est la dernière représentation à titre corporatif. Il y a par ailleurs des syndicats de cadres qui comprennent des ingénieurs. Mais l'intérêt de ce Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, c'est qu'il a repris une initiative qui avait été montée par la FASFID en 1958 de constituer régulièrement des enquêtes nationales sur les ingénieurs diplômés. Ça s'est fait de façon sans un rythme particulier. Au départ, 1958, il y en a une première, et puis une deuxième un peu après, et puis progressivement, ça se fait en gros tous les deux ou trois ans. L'enquête était menée par les ingénieurs eux-mêmes, mais sans, je dirais, la garantie des autorités en la matière d'enquête. Et il était reproché à ces enquêtes de la FASFID de ne pas respecter les normes en matière d'enquêtes socio-économiques. Malgré tout, ça donnait des intérêts, et c'est, à ma connaissance, la seule enquête nationale sur les ingénieurs qui existe sur le plan international dans le monde. Je n'en connais pas d'autres. Progressivement, ça s'est amélioré, et les enquêteurs chargés de cette enquête nationale ont pris contact avec l'INSEE, et l'INSEE a visé le résultat de ces enquêtes, et notamment apporter des correctifs, parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, les plus anciens répondaient plus facilement que les plus jeunes, qu'il y avait un certain nombre d'écoles qui répondaient moins volontiers que d'autres, et donc il fallait mettre des coefficients de correction de façon à obtenir des résultats qui soient probants. Et depuis, cette enquête est menée régulièrement et elle apporte des informations tout à fait considérables sur les ingénieurs français. Et on peut mener, c'est pas une enquête véritablement longitudinale, ce sont des quasi-panels, mais en tout cas, on peut suivre la vie des ingénieurs français d'année en année. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Et comme ça s'est ouvert un tout petit peu aux sociologues, eh bien, Christelle, qui est une remarquable diplomate, a pu comme ça faire passer quelques questions qu'elle a insérées dans cette enquête nationale des ingénieurs montée par le CNISF. Voilà. Le troisième point complémentaire sur l'enquête de Darina. Darina a fait une thèse absolument monumentale où elle a comparé les ingénieurs de l'Empire ottoman et de l'Empire espagnol sur tout le XIXe siècle. C'est un travail sans équivalent, à ma connaissance. Et donc, là, elle reprend, sur cette base-là, et puis sur les travaux complémentaires qu'elle a menés, une réflexion sur les ingénieurs espagnols. Il faut dire que le monde espagnol du XIXe siècle n'a pas le développement industriel qu'il y a dans les pays dits du Nord, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, naturellement. Ce qui veut dire que on a là des ingénieurs de corps d'État qui n'ont pas connu la Révolution française. Il y a encore la royauté, et donc l'idéal aristocratique est resté très fort. Et ce qu'elle montre bien dans son texte à propos du travail, c'est tout à fait clair, mais je pense que la situation en France, par exemple, avec la création de la Société des ingénieurs civils de France en 1848, qui rassemble des ingénieurs du privé, qu'ils soient libéraux, comme par exemple Eugène Flachat, qui dirige un groupement d'ingénieurs conseils, ou qu'ils travaillent dans les entreprises, eh bien, pose la question du travail, du salaire, de façon différente de ce qui se passe en Espagne. En Espagne, en tout et pour tout, il reste en 1851 une seule école d'ingénieurs industriels, celle de Barcelone, et la deuxième n'ouvrira qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, à Bilbao, et pendant 50 ans, il y a en tout et pour tout une seule école d'ingénieurs qui forme une centaine d'ingénieurs par an pour l'ensemble de l'Espagne. Donc on a là des considérations qui sont un petit peu différentes de celles qui pourraient se passer dans les autres pays industrialisés européens. Voilà. En revanche, sur la question de la masculinité et de l'hégémonie masculine, je trouve qu'il y a là un travail tout à fait remarquable, nouveau, et qui devrait interpeller tout le monde ici. Voilà.
Servane Guémène-Venière, je suis doctorante de géographie à Paris 1 et je m'intéresse au rôle des ingénieurs dans la gestion du littoral en menant une approche comparée entre certains sites en France, aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc l'exposé de Christelle Didier m'a particulièrement intéressée. Vous aviez la dernière ligne du résumé de votre présentation indiqué que vous aviez pour objectif d'expliquer l'être et surtout l'agir des ingénieurs en termes environnementaux. Je voulais savoir si vous aviez pu d'ores et déjà noter des répercussions sur les pratiques des ingénieurs et faire le lien entre représentation et pratique, et notamment savoir si l'évolution des représentations que les ingénieurs se font de notions environnementales ont eu une influence sur l'échelle spatiale et l'échelle temporelle de réflexion. Est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a une projection de leur rôle en termes spatial et aussi dans le futur?
Alors, j'ai peut-être été un peu ambitieuse dans mon résumé, parce que je crois que ce que j'ai comme matériau et que je peux analyser ne peut pas porter aujourd'hui sur les pratiques, ça nécessiterait un autre travail. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même de voir mais ce que je voulais voir, c'était comment les discours qui évoluent quand même avait des répercussions sur la représentation, parce que j'avais bien vu que dans les discours, aussi bien dans les écoles, dans les organisations qui représentent les ingénieurs, Voilà, on en avait plein à la bouche de l'environnement, du développement durable, mais de se rendre compte quand même qu'il y a des évolutions dans le temps, donc à partir de l'approche longitudinale, et après de repérer quand même ce qui me paraît pas étonnant mais inquiétant, c'est que pour eux, il n'y a pas de problème, quoi, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans. Donc là, il y a vraiment encore du travail à faire, mais ce qui ressort quand même très fortement, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a un glissement, donc globalement c'est peut-être moins pire qu'il y a 10 ans, mais si on regarde juste les attitudes brutes, donc je pense que là il y a encore du travail à faire du côté uniquement des représentations, mais c'est extrêmement pertinent ce que vous dites, il y a un travail à faire après sur le lien entre les représentations et l'action. Que j'ai annoncé peut-être un peu vite, c'est le programme pour 10 ans.
Sur la notion de travail, c'est très intéressant, comme tu l'as montré, et pour voir la définition de l'ingénieur et de la masculinité de l'ingénierie. Et en 1928, la première ingénieure industrielle en Espagne, à Paris, et il n'y a pas d'opposition ou résistance à l'ingénierie, et on ne fait pas boom médiatique ni débat. Et cette femme avait une conception très conservateur du travail, sur du travail féminin, c'est-à-dire que en relation au travail domestique, au travail extra domestique. Et je me demande si dans les 19e siècle, il y avait quelques moments de débat autour de la question du travail féminin en relation à l'ingénierie et pourquoi il apparaît, s'il apparaît. Parce que pendant les 30, c'est invisible.
Bien, merci. Oui, je crois que ça, c'est une bonne question. Nous devons, questionner, nuancer et historiser cette narrative simpliste de la libération progressive de la femme. Nous devons, je crois, nous approcher au sujet d'une manière bien différente. Ce que tu dis, non, il n'y a pas eu un débat spécifique dans ce cadre-là. Il y a eu un grand débat sur les femmes et le travail, les femmes et l'accès à l'éducation, mais pas spécifique. Il y a eu même un petit débat sur les femmes télégraphistes pour négocier son travail, leur travail, dans le cadre familial, parce qu'ils ont aidé à son père, par exemple, à son mari, ils sont devenus fonctionnaires d'État, mais seulement comme ça. Mais ça, il a existé ce tour de débat, mais pas un débat sur l'ingénierie et les femmes. Et je crois que c'est précisément, ça soutient ma thèse, ma hypothèse ici, que ce n'est pas été une chose spéciale, spécifique des ingénieurs. Ça a été l'exclusion, ça a été opéré au niveau des professions libérales.
Odile,
c'était une question par rapport au genre. Moi, je donne un cours sur genre et travail à l'Université de Lausanne, à l'EPFL, et j'en profite pour faire de la publicité pour cet excellent travail pédagogique auprès des élèves ingénieurs. Et par rapport à ton exposé, voulais te demander, tu as parlé à un moment d'une contradiction entre dans le discours ingénieur masculin, entre la foi dans le travail et le fait qu'on s'approprie des titres de noblesse. Hein. Et alors voilà, ce que j'ai trouvé ça tout à fait remarquable comme contradiction, en effet. Et je voulais savoir jusqu'où tu peux dire que, enfin, quels sont les éléments qui vérifient que c'est un discours typiquement masculin. Est-ce que c'est simplement le fait qu'il n'y avait que des hommes ingénieurs, ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette contradiction-là?
La nécessité de négocier avec les valeurs aristocratiques a existé, je crois, en France aussi, mais c'est vrai que peut-être en Espagne, surtout au niveau du discours, ce besoin a été beaucoup plus fort, beaucoup plus explicite. En France, parfois, on a revendiqué l'idéal de l'égalité républicaine, mais même si les mêmes mécanismes exclusifs ont opéré qu'en Espagne. Mais c'est vrai qu'en Espagne, ils ont été beaucoup plus explicites au niveau du discours aussi. Même s'il y a eu beaucoup d'ingénieurs libéraux, ça n'empêche pas qu'à la fois, ils ont revendiqué des valeurs aristocratiques, ils se sont appropriés de cette valeur, ils ont transformé aussi. Il y a eu toujours une négociation complexe, une appropriation, mais aussi une transformation, un questionnement direct. Il y a pendant la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu toujours un conflit à la fois qu'en cohabitation, mélange. Ça a été un espace très fluide et très contesté. Dans la question de la masculinité, oui, je crois que pas au niveau des ingénieurs. Je ne crois pas que mon travail, je ne trouvais pas beaucoup de signes qu'il y a une rationalité spécifiquement technique, spécifiquement liée aux ingénieurs, qui les a exclus, convertis dans un modèle de masculinité spécifique en 19e siècle. Je crois que dans cette époque-là, ça c'est différent au début du 20e, mais pendant le 19e, ça a été la construction en termes de genre, de gender, de la rationalité et les émotions, les sentiments. Ça a été la différence qui a opéré, par exemple, dans les débats sur l'exclusion de la femme de l'éducation universitaire et aussi dans les débats et dans les pratiques qui les ont exclus de l'espace public, parce que nous devons pas être ahistoriques. And I would rather explain it in English because I think it would torture you less than my deficient French. So I think that, for example, there is not this progress in terms of access to the public space, because the aristocrat women played a very important role in public in what was not the same public space, but let's say public space in the previous centuries. And now they are in the 19th century, they were being excluded from it. And I think that, for example, the democratization of politics, or the parliamentary politics and liberal professions were part, actually, of this expulsion of women from the public space in that time. Before there were other tools, but this is a completely different debate. But I don't think that there was anything specific for the engineers in the 19th century. No, I don't think so.
Cette fois, c'est Odile, là.
Ouais, moi, j'ai deux petites questions.
Oui.
Une pour Marie-Pierre. Je me suis posé la question en vous écoutant. De savoir si vous aviez replacé un petit peu cet humanisme technique de Gaston Berger dans une histoire plus longue, parce qu'il me semble qu'on peut établir, alors je lance ça à la discussion, hein, certaines filiations. Alors je pense d'abord à un ingénieur, enfin c'est pas un ingénieur, c'est un normalien physicien, Joseph Villebois, le Plaisien, qui a créé une école des humanités juste après la Première Guerre mondiale. Joseph Villebois, qui était un élève de Bergson. Et je pense aussi, dans la filiation, à Jean Coutreau, qui était un ingénieur polytechnicien, qui a développé cette idée que l'armure technique, la technique étouffe l'homme, qu'il faut réinventer l'homme. Et il a créé un centre d'études des problèmes humains et un humanisme technique. Et une des figures importantes du CEF, du Centre d'études des problèmes humains, c'était le père Teilhard de Chardin, oui. Qui était donc voilà. Et on sait que le Centre d'études des problèmes humains, ça a été une sorte de première version de la Fondation Carrel, après la mort de Coutreau. Fondation Carrel dont le recteur, si je me souviens bien, était Ferdinand Gros. Ferdinand Gros qui était associé avec Gaston Berger pour créer un centre d'études prospectives.
André Gros.
André Gros, pardon, je me...
Enfin, on parle du même
Oui, c'est
oui,
Gros, enfin... docteur Gros.
Oui, docteur.
Voilà. Donc, je me suis demandé si vous aviez travaillé sur cette filiation, si cet humanisme technique de la libération, d'après la libération, puis ses origines dans ce vieil humanisme technique qui est présent dès l'après-Première Guerre mondiale. Bon, c'est une petite question. Et puis alors, pour juste une toute petite question pour Darina... En vous écoutant, je me disais, mais est-ce qu'on pourrait dire la même chose des ingénieurs français ? Enfin, je réfléchissais, la femme ingénieure, comment ça se configure ? Et puis, je pensais à quelque chose d'assez amusant. C'est que, d'abord, dans la prosopo des organisateurs conseils que j'ai constitués, il y a pas mal de femmes. Et les femmes ont des cabinets de conseil importants. Donc ça, c'est un premier point. Et au CNOF, le Comité national de l'organisation française, qui est constitué quasiment exclusivement d'ingénieurs, on trouve une section où il n'y a que des femmes. Et c'est la section économie domestique qui, donc, applique le taylorisme au travail donc domestique. Et cette section est représentée par Paulette Bernège, qui a créé une revue qui s'appelle « Mon chez-moi », une revue qui était assez bien diffusée pendant l'entre-deux-guerres. Et alors, c'est assez amusant, quand on travaille sur les PV du CNOF, de voir que ces ingénieurs disaient quand même, ces femmes, il faudrait peut-être les virer, parce que franchement, ça n'est pas très sérieux. Puis on a toujours un pour dire, mais non, il faut les garder, parce que l'application du taylorisme à l'univers domestique, c'est un champ d'application de ces doctrines tout à fait important. Et Paulette Bernège définit la femme comme l'ingénieur de la maison, mais un ingénieur qui est subordonné à l'homme, qui reste le maître de la maison. Voilà.
Il m'a demandé de faire vite. Alors, très vite, la réaction spontanée, pas vraiment très spontanée, je pense que ça, ce sont des réflexions. D'une part, l'ingénieur ou la profession de l'ingénieur a quand même quelque chose de spécifique, et je veux bien essayer de le démontrer, mais je n'ai pas le temps. Dans le 19e siècle, par rapport à la masculinité et la féminité, il y a des discours. Darina a eu l'avantage d'étudier ce discours. C'est rare. Mais en fait, la question est de savoir. Moi, j'ai étudié aussi le phénomène de l'émergence de la femme ingénieure dans le contexte russe qui est très précoce. Alors là, je peux constater que la question de la masculinité hégémonique ou de la féminité écrasée ne peut se poser que dans la mesure où la question... Bon, c'est-à-dire, il faut que la question soit posée, parce que c'était tellement évident que ce n'était pas un métier féminin qu'on ne s'interrogeait même pas. Dans la mesure où, en Russie, par exemple, c'était les ingénieurs, c'était les ingénieurs du corps. Donc les femmes n'avaient pas accès aux services d'État. C'était banal. C'était les femmes qui ont posé la question. À partir des années 1860, la question était clairement posée par les femmes qui ont d'office imposer leur présence dans les universités. Ensuite, ils ont posé les questions. Nous, on veut avoir la formation d'ingénieurs. Et ils ont entraîné les ingénieurs d'État qui avaient le pouvoir, qui avaient l'autorité d'organiser une formation spéciale pour les femmes, parce qu'on ne pouvait pas intégrer les femmes dans les institutions d'État. On a créé une institution spéciale pour les femmes où les meilleurs ingénieurs d'État ont enseigné et qui ont, eux, œuvrer pour faire la place aux femmes, leurs élèves, au marché du travail. Oui. Donc, je pense que parler de la masculinité hégémonique, ça implique aussi parler de la féminité aussi qui veut s'imposer émergente. Donc, c'est une question ouverte.
Mais ça, c'est plus tard, hein, c'est 1905, hein, à Saint-Pétersbourg. Et ce n'est pas une petite chose. Voilà, c'est pas une petite chose parce qu'il y a plusieurs centaines de femmes qui sont formées.
Moi, je voulais aussi intervenir comme Irina pour. J'ai travaillé sur les femmes ingénieures en France et aussi en reprenant les travaux historiques d'André et d'autres. Et ce qui me semble, c'est qu'il y avait même au 19e siècle, on peut parler, je pense, comme Irina, de spécificité quand même de la masculinité hégémonique, même si les femmes n'avaient pas accès ni au baccalauréat, ni aux études supérieures, quelles que soient les professions. Pour comprendre pourquoi aujourd'hui on retrouve encore ce caractère très masculin de la profession d'ingénieur où elle ne perce pas vraiment, ou dans certains domaines elle ne perce pas du tout, ou très très peu, il me semble que ce qui est spécifique à cette profession, ce n'est pas simplement cette profession d'ingénieur, mais c'est tout l'espace des qualifications industrielles liées à l'industrie, c'est-à-dire que de l'ouvrier qualifié autour de la mécanique ou l'électricité jusqu'à l'ingénieur, qui est masculin dans tous les pays du monde. Donc il n'y a pas de possibilité de penser des femmes dans cet univers et de qu'elles puissent progresser, parce qu'il y avait des hommes qui étaient ingénieurs sans avoir fait des grandes écoles, en grimpant par le rang. Et cette image-là n'existe pas, existe toujours très très peu, donc je pense qu'il y a une spécificité par rapport à la médecine, par exemple, où il y a eu des femmes de soins de tout temps, des sages-femmes, même si on les a dépossédées, les chirurgiens. Il y a eu les femmes de papier, des femmes, enfin c'est ce que raconte Sylvie Schweitzer dans son livre sur l'histoire des femmes. Il y a eu quand même des domaines plus ou moins marqués au féminin. Au fil de l'histoire, on ne peut pas dire qu'il y a eu la masculinité hégémonique pour tout le monde au 19e, et puis plus au 20e. Je crois que vraiment, cette profession d'ingénieur, parce qu'elle s'inscrit dans un espace de qualification industrielle très très masculin, reste aujourd'hui en... Oui, je crois, enfin ça vaut la peine, je trouve, de continuer à comprendre pourquoi ça reste aujourd'hui en France ou ailleurs. Là, je viens de faire une étude sur la Turquie, et un mémoire de M2, là, où il y a énormément de femmes ingénieures en génie à l'université, en génie mécanique, en génie électronique, jusqu'à 30, 40, 50% de femmes, mais elles ne sont jamais sur le terrain, dans les ateliers, dans les chantiers, elles ne sont pas dans le secteur privé, dans l'industrie, elles sont à l'université. Donc il y a bien quelque chose qui bloque, là.
Si je peux dire quelque chose ou quoi ?
Parfait.
Ce n'est pas une question, mais je pense aussi qu'on doit voir en fonction des différents types d'ingénieurs. Parce que c'est différent, la quantité de femmes dans certaines branches d'ingénierie que dans d'autres. Seulement pour tout ça.
Alors, on va d'abord laisser Marie-Pierre parler sur
les
origines philosophiques.
Je vais répondre très rapidement parce que je vois que la question des femmes m'intéresse. Elle m'intéresse aussi. Donc, rapidement, c'est une question complexe sur ses origines. Effectivement, dans les noms que vous avez cités, je retiendrai Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, qui est un inspirateur pour Berger. Et même, je tiens à dire que ces modèles des centres d'humanité, enfin d'écoles des humanités, et qui se traduit dans l'idée de centre des humanités à l'INSA, n'est pas nouveau et relève de la même idée, comme je l'ai dit, d'interroger l'homme sur ce qu'il fait et sur ce qu'il est, et qui rejoint la tradition qu'on a évoquée. Moi, en fait, la filiation que j'étudie, enfin que je creuse, c'est surtout par rapport à Husserl et à la phénoménologie et l'influence des sciences et de la philosophie sur la formation de l'ingénieur. Donc je peux pas développer.
Tu ne peux pas nier les débats qui ont lieu à ce moment-là.
Ah, pas du tout, non, au contraire.
Parce que, par exemple, en 1945, se crée une structure qui s'appelle l'ACADI, l'Association des cadres et dirigeants de l'industrie, qui regroupe les très hauts fonctionnaires qui dirigent les entreprises d'État, et qui est quelque chose qui a été fondé par des pères jésuites et qui ne se dit pas chrétien, mais qui est crypto-chrétien. La création de l'INSA, il y a des exposés qui sont faits à l'ACADI sur la nécessité de créer une nouvelle école d'ingénieurs qui sera précisément l'INSA. Alors.
Okay. Je matrice ce sujet spécifique de la masculinité hégémonique beaucoup mieux en anglais. Je vous répondrai en anglais. So I think that precisely what you were saying, it confirms what I maintain, and that there is something that it has to be studied in detail. And what I was saying that in Spain, until the very last years of the 19th century, it was not engineering, was not like there was nothing very specific about engineering in this respect, because it generally it wasn't necessary. There were common things with the other liberal professions. Then it starts to change. That was what I said. In the very end of the 19th century, there is this specific technical rationality that emerges, and it all starts to change. And of course, if we study other countries, I think that this will make the debate much more specific, and we will be free from these clichés, overwhelming clichés, like of very easy, very simplified relations of power. And because, for example, why in Turkey the access of women to engineering was very fast, while in Germany it was very it is very still very slow, and why do these women stay in specific branches of engineering and are hardly representative in others. So I think that this was what I was arguing for. I think that instead of simplifying and saying like the oppressed women were excluded from engineering, we have to be very careful both in historicizing and in specifying, because this would actually permit us. And I would be happy if there were more studies of this kind, and like the book about the bridges. But that would also look on the masculinities, not only on the like presence of women, because it doesn't explain a lot. I think that it has to be studied in a broader in terms of broader social discourse and practice in order to understand it. So this is I join you in your arguments and in your opinions, and I think that precisely this concrete study of years when it started to change, and why exactly what did work mean so for a social status in Russia? Did it mean the same thing as in Spain? And did work mean the same thing in the United States? I don't think so. So we have to study this all in order to really understand it, instead of elaborating simply narratives of oppression versus dominance. It is not useful and productive. So I agree. I would like us to be more, to take some interest in this subject.
Merci beaucoup. Et comme ce débat remonte à la plus haute antiquité, nous allons arrêter là, parce qu'il faut bien s'arrêter un moment. Je propose 10 minutes d'interruption avant le débat final qui rassemblera les meilleurs d'entre nous.